Bonjour, c'est Fred, vous êtes bien sur CFM dans l'émission « Combien de temps encore ?». Alors aujourd'hui, on va reparler des conditions de vie des animaux dits de compagnie, parce que passer sa vie à la chaîne, en cage, pour certains chiens de ville, l'usage du collier électrique que sont des pratiques, des habitudes qui sont malheureusement toujours en activité et qui ne sont plus acceptables. La vie de ces animaux est insupportable. Elle n'est pas conforme à l'article L214 du Code rural. Mais effectivement, les lois ne sont pas du tout mises en application et rien ne se passe. Je rappelle quand même l'article L214, qui a d'ailleurs donné le nom de l'association de défense de cause animale L214. Alors l'article de loi est le suivant. Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Alors moi, ce que j'espère, c'est vraiment que ces émissions consacrées aux animaux de compagnie puissent faire prendre conscience à de nombreux propriétaires de chiens que leurs compagnons méritent mieux qu'une vie à la chaîne ou en cage dans certains appartements, que le collier électrique relève de la maltraitance, parce qu'il faut quand même bien voir qu'on envoie des décharges électriques à un autre être vivant. Voilà, donc j'espère vraiment que ces émissions consacrées aux animaux dits de compagnie pourront faire évoluer les mentalités au plus vite. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir un entretien avec Delphine de Saint-Nicolas, qui est une éducatrice canin du Tarn. Elle va aborder des notions importantes comme la notion d'éducation canine et l'éducation positive. Et elle va également développer un point important qui est la mise en garde par rapport à certains types de centres d'éducation canine qui fleurissent et qui sont basés vraiment sur des méthodes de maltraitance. Voilà. Alors, tous les centres d'éducation canine ne sont pas basés sur la violence. Il y en a des très bien. Donc, ce qu'on conseille, c'est vraiment que lorsque quelqu'un prend la décision d'aller dans un centre d'éducation canine, d'y aller sans son compagnon chien. Voilà. Qui voit, qui juge. Et s'il s'aperçoit, et on s'en aperçoit relativement vite, de ce qui se passe, eh ben, il y retourne pas. Voilà. On parlera également avec Delphine du problème du collier électrique. Et elle nous parlera, bien sûr, de ces diverses activités dans l'éducation canine. On lance l'entretien. Bonjour, donc Delphine de Saint-Nicolas, entreprise Sens Canin. Vous êtes donc éducatrice canin. Je vais déjà peut-être tout simplement vous laisser présenter un petit peu vos activités dans l'éducation canine.
Donc moi j'ai un parcours déjà de formation dans le milieu canin, stage et plein d'autres expériences, des rencontres. Mais j'ai créé cette activité-là, donc mon entreprise qui s'appelle Sens Canin, comme vous l'avez dit, en 2017. Je suis dans le Tarn. Voilà. Je me déplace dans tout le département et puis aussi les départements limitrophes quand il y a des besoins. Je propose des services donc en éducation canine, en rééducation aussi des comportements du chien. Il y a des activités de loisirs comme la recherche, l'aquatique, le clicker training, des canimarches, des balades éducatives. Et j'ai une autre branche qui est la médiation par l'animal. Voilà.
D'accord.
Voilà la présentation de mon entreprise.
Est-ce qu'il y a des possibilités de stage ou de journée de mini-formation pour des particuliers ou...
Oui. Alors, c'est principalement dans la recherche, voilà. J'ai eu une formation en chien de recherche de personnes égarées, surtout dans le décombre.
D'accord.
Et je propose aux particuliers de découvrir ces activités sur des ateliers en demi-journée, mais aussi, là, bientôt, au mois de mars, sur un week-end. Voilà, une D'accord. journée pour du pistage utilitaire et une journée pour la recherche en bâtiment.
D'accord, oui, donc c'est vraiment très spécialisé au niveau des formations. C'est vraiment sur la... Les personnes viennent avec leur propre chien ou...
Oui.
D'accord.
Oui, c'est ça. Oui, puis après, bon, ce sont des activités pour le loisir. Hein. Donc, c'est vraiment adapté à chaque personne et à chaque chien.
D'accord. Voilà,
tout le monde est bienvenu. Petit chien, gros chien, mini chien, grand chien, toute race. Voilà.
D'accord. Alors, on va aborder plusieurs points. Donc, vous avez d'ailleurs parlé déjà dans la présentation. Alors, la notion d'éducation canine. Et peut-être la différence, est-ce qu'on peut faire une différence entre éducation, dressage? Donc voilà, développer cette notion d'éducation canine et surtout la notion d'éducation positive. Voilà, je voulais développer un peu ces points qui me semblent importants, voilà, par rapport à une rééducation du comportement du chien.
Oui, et puis important de toute manière... dans la vie, les relations qu'on met en place avec le chien. L'éducation, c'est quand même apprendre, on peut dire, les bonnes manières, entre guillemets, les bons comportements au chien. Ces comportements, en fait, et ces bonnes manières, entre guillemets, qui lui permettent d'évoluer sereinement, de s'adapter aussi à la vie de famille humaine et à notre société. On a des exemples, hein, ne pas sauter sur les gens, aller se coucher gentiment, revenir au rappel, ne pas tirer en laisse. Bon, voilà, ça sont des exemples classiques d'éducation. Et donc, c'est valable, hein, vraiment pour toutes les relations d'humain et du chien, parce que bon, voilà, on demande quand même au chien à vivre dans une société qui n'est pas la sienne, dans un milieu qui n'est pas le sien, même s'il vit depuis des millénaires à nos côtés et qui s'adapte énormément.
Oui. Après, c'est vrai qu'on lui demande beaucoup, enfin, on leur demande de... Moi, j'ai l'impression qu'on est dans des sociétés où on leur demande de plus en plus d'être vraiment formatés à faire le... Il y a de plus en plus d'animaux dits de compagnie, mais en même temps... Bon, le chat échappe, heureusement, un peu à... il a plus d'espace de liberté, voilà. Mais le chien... Il a vraiment intérêt à être formaté avec des on lui accorde, je dirais, de moins en moins de droits par rapport à sa nature même, en fait, à ses besoins.
Et oui, parce que sa nature elle peut déranger et elle dérange dans notre société d'humains, quoi.
Ouais.
Voilà, donc bon, c'est beaucoup dans les milieux urbains et pas que, hein, de toute manière. Hein.
Ouais.
Le chien qui aboie, le chien qui creuse, le chien voilà qui est trop content, qui saute sur les gens.
Ouais.
Voilà, c'est clair que c'est pas évident pour le chien de se retrouver là-dedans, et c'est à nous, par le biais d'une éducation. Qui en tout cas doit être bienveillante, quoi, dans tous les cas, et dans le respect justement de sa nature. C'est à nous à faire en sorte qu'il puisse vivre avec nous sans en être perturbé et qu'il puisse aussi assouvir ses besoins de chien.
Oui,
voilà,
oui,
tout simplement.
Oui.
Donc l'éducation, elle est là pour donner des clés, vraiment, quoi, pour donner des clés aux gens. Et c'est vrai que moi, pour moi, hein, en tout cas, je travaille sur le chien, ça c'est une chose, mais c'est pas grand-chose, en fait, à faire, souvent.
Ouais.
Il n'y a pas grand-chose à faire. Pour moi, le plus important, ça reste vraiment le travail sur l'humain, avec l'humain, et le lien, en fait.
Ouais.
Là, il y a une mise au point à faire sur ce lien, sur la relation entre l'humain et le chien. Voilà. Sans cela, le travail d'éducation, les bases ne sont pas saines. Il faut que la personne sache comment apprend le chien, quelle est la relation installée avec lui, comment, quelle est la manière de communiquer du chien, ce qu'il ne faut pas faire avec un chien, avec les chiens, voilà, tout ce qui pourrait engendrer en fait des problèmes d'interprétation et d'interaction, et puis aussi parler des lieux communs qu'on peut entendre, quoi, le chien dominant, par exemple,
ouais.
Ça fait un gros exemple, voilà. Des choses qu'on entend et qui ne sont plus qui n'ont plus lieu d'être maintenant, quoi.
Et est-ce que alors on va revenir un petit peu justement sur la notion, la relation avec l'humain. Au niveau de l'éducation positive, est-ce qu'on peut essayer de définir par rapport à qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, quels sont les principes de base, en fait?
Oui, alors oui, l'éducation positive. Alors, il y a d'abord eu quand même l'éducation appelée éducation naturelle, en fait. Les méthodes naturelles, l'éducation positive en découle hein, aussi. On va surtout utiliser bah, du coup les aptitudes naturelles du chien et sa motivation personnelle. Voilà, la motivation personnelle du chien, j'entends.
Oui.
On va s'en servir en fait donc pour apprendre tout ce que j'ai dit avant au chien. C'est ce sont des méthodes qui on va utiliser des motivations plutôt saines et normales pour le chien et qui lui donnent envie d'agir plutôt que simplement réagir aussi.
Oui.
Qui lui donne envie d'être dans l'action et d'être acteur aussi de cette éducation-là. Quoi.
De comprendre ce qu'on lui demande aussi, il y a la notion de compréhension, de bien veiller à ce qu'il comprenne ce qu'on lui demande et pas que ça soit coercitif. Et,
C'est ça. Donc là, voilà, il y a des outils. Hein. Bon, il y a la nourriture, la friandise, qui est une bonne motivation. Il y a le jouet, qui est une bonne motivation. Il y a simplement la caresse, la présence. Après, il y a toutes les postures que nous pouvons avoir, les mimiques, connaître bien le langage du chien. Apprendre à lire son chien. Donc, voilà, sa position corporelle, tous ses signaux.
Savoir et peut-être prendre conscience aussi qu'il nous lit aussi, lui, par rapport aux postures qu'on a, nous. Et que ça, on en a en général pas du tout... Enfin, on en a très peu conscience, en fait.
Et oui, c'est là le travail sur l'humain.
Oui.
Voilà. Le chien, lui, il va apprendre des choses, mais il ne se mettra pas à notre place. Nous, on a quand même une capacité de pouvoir se mettre à la place du chien quand on comprend son fonctionnement. Donc, là, être aussi, nous, dans l'empathie, quoi, et de pouvoir adopter les bonnes postures
oui.
Et éviter tous ces problèmes de mauvaise interprétation. Quoi.
Oui.
Ensuite, sur les méthodes positives ou bienveillantes, ouais, moi, je vais vraiment parler aussi de méthodes respectueuses et bienveillante, on peut appeler ça aussi des méthodes amicales. Il y a aussi tout un vocabulaire, il y a aussi toute une remise en question que l'humain doit avoir. Autre que ses postures aussi corporelles, et la gestuelle, il y a les mots aussi utilisés, il y a les intentions, il y a tout le vocabulaire, tout ce qu'on pourrait mettre derrière, en fait. Quoi. Tout ça est porteur de sens, et puis on transmet au chien. Voilà. Autre point aussi.
Alors, on va faire une pause musicale et on reprend l'entretien tout de suite après. Voilà, donc vous êtes toujours sur CFM. Pour l'émission Combien de temps encore, on reprend l'entretien avec Delphine de Saint-Nicolas, éducatrice canin dans le Tarn. Et on va peut-être développer justement cette notion, enfin développer, on en a déjà parlé, mais la relation du chien avec son humain. Et est-ce qu'il vous est arrivé, est-ce que vous avez eu le bonheur de pouvoir faire prendre conscience à des personnes qui étaient peut-être restées très très stéréotypées sur un chien qui doit faire comme ça, qui voilà quoi, à qui on imposait oui. des choses, et arriver à faire prendre conscience à ces gens, parce que c'est un peu le but de ces émissions que j'essaye de faire sur les animaux dits de compagnie, c'est qu'il y a plein d'habitudes. Est-ce qu'il y a des, il vous est arrivé lors de votre travail, que l'humain se remette vraiment en question et se dise, bah non, là, soit j'ai mon chien à la chaîne, c'est plus possible, soit je lui impose des choses mais qui sont ridicules, qui n'ont aucun intérêt. Et voilà, est-ce que vous arrivez à ça aussi parfois, sur des demandes qui sont oui. vraiment... voilà.
Oui, oui, et même souvent.
D'accord.
Un grand bonheur.
Oui.
Donc c'est ça qui est vraiment chouette. C'est aussi une belle partie du travail, c'est ces humains qui finalement sourds et qui découvrent des choses qu'ils ne savaient pas. Et souvent les soucis pour lesquels ils m'appellent, c'est un problème de comportement, voilà, en fait c'est eux qui jugent ça de cette manière-là. C'est souvent un comportement mais pas adapté, du chien qui n'est pas adapté mais qui est dû qui est induit par le comportement de l'humain, voilà, par tout ce qu'il a entendu qu'il fallait mettre en place. Voilà, le chien justement doit rester à sa place en tant que chien et pas prendre en compte l'émotionnel du chien, son fonctionnement. Et en parlant, puisque moi ce travail-là, c'est quand même le plus important, ce travail sur l'humain, en parlant avec l'humain, en lui amenant aussi des documents, ouais. voilà, de pouvoir aussi relire derrière, pouvoir recevoir de la documentation, pouvoir échanger, discuter, pouvoir mettre en pratique, ça leur ouvre des portes. Et oui, il se dit là, ouais, et oui, effectivement, là j'ai eu il n'y a pas très longtemps un compte rendu, c'est quelqu'un d'assez loin, mais oh, quel bonheur. Le chien, du jour au lendemain, il a cessé ses comportements, grogner.
Parce que le maître s'était remis en question et lui-même avait cessé les...
Oui, et là, c'était la famille, complètement. Et ouais,
ouais.
C'est vraiment chouette. C'est une autre aventure, en fait. C'est une autre vie qui commence pour eux, quoi.
Ouais. Et pour le chien aussi.
Voilà. Et ouais. oui, pour tous, ouais. parce que ça ouvre les portes. Ça ouvre des portes vraiment, quoi. Le chien, c'est pas qu'un chien comme ça.
Oui, parce qu'on en est encore à faire prendre conscience à des personnes mais que c'est que l'animal est un individu à part entière et que le chien avec lequel on vit, c'est avant tout un compagnon, que c'est un individu et qu'il faut absolument que la base, c'est ce respect-là. Parce que sinon, ça ne rime à rien.
Mais ils pensent l'avoir.
Oui, alors voilà. Enfin,
les personnes pensent l'avoir.
Oui, oui, oui.
La difficulté. Parce qu'on leur a appris à faire comme ça tout le temps. Voilà. Souvent, on pense respecter le chien parce qu'on lui demande d'être à sa place de chien. Donc, être au pied, ne jamais être devant en laisse, passer toujours derrière soi, manger en dernier. Enfin voilà, tous ces lieux communs, quoi. On pense respecter le chien en tant que chien, mais en fait, non. On est complètement à côté de la plaque, mais c'est parce que voilà, c'est des choses qui
sont véhiculées
depuis des années.
Et alors, au niveau du comportement, alors par contre des chiens, est-ce qu'il y a encore pour un éducateur ou pour un comportementaliste, est-ce qu'il y a encore des attitudes, des comportements canins qui sont pas déchiffrables. Alors en plus, bon, il y a le fait que chaque chien est différent, mais je pense qu'il y a quand même peut-être après quand même des codes plus ou moins communs. Et dans les codes communs, est-ce qu'il y a encore des codes que l'humain même formé ne décrypte pas, n'arrive pas trop à... Je pense par exemple à des chiens qui sont en groupe. On veut que ça se passe bien entre eux et puis on s'aperçoit que si on s'en mêle... Bon, il n'y a pas de carnage, donc le fait qu'on s'en mêle pas, ça se passe finalement pas plus mal. Donc voilà, dans le sens où est-ce qu'il y a des codes encore qui nous restent, tant mieux, un peu mystérieux, quoi.
Oui, bon, je pense qu'on sait pas tout, hein, dans tous les cas. Quand, et oui, puis heureusement, c'est tous ces codes. Il me semble qu'on arrive quand même à les voir. Et après, le peut-être le souci, c'est les interpréter.
Oui.
C'est peut-être là encore où résident les mystères, parce qu'on n'est pas dans la tête des chiens, quoi. Donc,
oui,
même par rapport à l'environnement, par rapport à qui est qui, par rapport à l'interaction, par rapport à ce qui est en, en jeu.
Et puis, pas raisonner, en, pas interpréter en tant que. Enfin, arriver à prendre vraiment du recul sur notre logique humaine par rapport à un
oui,
autre type de logique aussi. Ouais.
Ouais, ça, c'est indispensable. Ouais. Mais une fois de plus, on n'est toujours pas dans la tête du chien, donc il peut rester quand même des mystères. On peut quand même dégrossir une situation, comprendre, mais il y en a qui vont toujours rester flous parce que voilà, on n'est pas quand même dans leur tête.
Et dans les codes communs, je pense qu'il y a quand même le déchiffrage doit rester relativement maintenant assez pour des spécialistes assez connus ou assez
oui pour les principaux, ce qu'on appelle du coup les signaux d'apaisement. Ou signaux de communication, on a quand même tout un panel de signaux qu'on connaît, qu'on reconnaît. C'est d'ailleurs ce que je transmets aussi aux particuliers, hein. Ce qui donne une lecture justement plus aisée de leur chien. Et c'est vrai que quand on a ça en main, on arrive à comprendre pas mal de situations, surtout quand on met la pression au chien, quand il est en inconfort. Voilà, tous ces signaux qu'il peut envoyer là et qui permet en plus de mettre les humains aussi en sécurité dans certaines situations et puis du coup de respecter le chien dans ses besoins et ses envies et ses non-envies. Après, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, chaque individu est différent et unique avec son passé, ses expériences. Et certains, d'ailleurs, vont utiliser plus de signaux que d'autres. D'autres, avec leur passé, ne vont plus en utiliser. Voilà. Ils ont été coupés ou dissocialisés aussi. Donc là, faut réapprendre leur langage, faut qu'ils réapprennent leur langage. Donc il y a des choses voilà qui peuvent être occultées un temps. Il y a des choses qu'il faut déceler quand justement il n'y a pas de signaux ou peu de signaux. Il y en a qui vont mal utiliser ces signaux aussi. Et puis bon, après, je suppose qu'il y en a que nous, on ne voit pas, quoi.
Oui. D'accord.
Je suppose.
Donc, alors on va refaire une petite pause parce qu'après on attaquera deux autres points un peu différents. Donc on refait une pause et on reprend l'entretien juste après.
Ok.
We'll be right back.
donc vous êtes bien sur CFM dans l'émission Combien de temps encore. On reprend notre entretien avec Delphine de Saint-Nicolas. Et voilà, je voulais aborder, puisque vous en aviez parlé, la médiation animale. Donc voilà, bah, expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Et après, j'aurais une question voilà, par rapport à la limite sur l'exploitation. Voilà, quand on parle, comment ne pas tomber dans l'exploitation animale. Ben voilà, je pose tout de suite ma question.
Ok. La médiation par l'animal, c'est en fait mettre en lien en règle générale un humain ou un groupe d'humains plutôt fragilisés, isolés. Ça peut être aussi des enfants. Ça peut être des personnes dans le milieu carcéral. Ça peut être des personnes âgées. Ça peut être des personnes atteintes de syndrome Alzheimer. Voilà, des gens ayant une fragilité avec l'animal. Donc là, on peut utiliser justement le mot utiliser. On peut faire équipe avec des animaux différents. C'est vrai que c'est venu surtout avec le cheval, avec l'équithérapie, et ensuite le chien. Il y a des chats aussi, médiateurs, des cochons d'Inde, les lapins, des petits animaux, des poules. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi une activité, comme l'éducation canine, à la mode. Voilà. Tout ce qui touche au travail avec les animaux et en relation avec l'humain est quand même bien mis en avant maintenant. Et c'est vrai que là, il faut vraiment porter de l'intérêt à travailler avec bienveillance, quoi. Bienveillance pour les bénéficiaires, donc les humains, mais d'abord, en tout cas pour moi, pour les animaux qui interviennent en séance, quoi.
Oui, voilà. Parce que c'est plutôt, à la limite, ça peut être vu comme quelque chose de positif, qu'on essaye d'avoir de plus en plus une relation avec l'animal en tant qu'être vivant, qui va nous apporter un échange, qui va nous enrichir au niveau spirituel ou même physique, qui va nous faire du bien. Mais le danger, c'est aussi que ça devienne un outil et sans aucun respect pour lui, son envie ou pas de participer. Et voilà, la marge, elle est... bon, moi, je vais peut-être m'attirer sans doute des gens qui vont pas être d'accord, mais moi, par exemple, je considère que les chiens d'aveugle, pour moi, le chien n'est pas heureux. Voilà, on a beau dire que l'animal adore aider l'humain. Moi, quand j'en vois, je me dis, mais ses besoins à lui, ne serait-ce que se dépenser, ça me met mal à l'aise. Après, je connais pas bien la formation des chiens d'aveugle, peut-être qu'ils ont des marges où ils peuvent se dépenser à fond, je sais pas. Mais moi, ça me donne toujours une impression d'exploitation, même si c'est pas voulu, même si voilà, je sens pas bien. Alors après, voilà, la médiation par l'animal, la marge à pas tomber dans l'exploitation de l'animal, elle doit être difficile à bien.
C'est d'abord se former et bien se former, quoi. Déjà se former à la connaissance de l'animal avec lequel on travaille. C'est juste indispensable. Et bien sûr, des bénéficiaires et du public aussi, avec lequel on travaille. Parce que justement, pour ne pas mettre à mal l'animal ou les personnes, mais du coup, là, l'animal, en lui demandant des choses qui ne sont pas cohérentes ou qui sont inadaptées aux personnes en face, ou là, il y aurait peut-être un risque pour l'animal. C'est vraiment veiller à son bien-être, à ne pas durer dans le temps, voilà.
C'est vrai que c'est différent, parce que là... Et puis l'animal, il rentre chez lui après. C'est pas comme le chien d'aveugle, il est toujours avec... Enfin, il est chez lui,
non,
du coup.
Non, alors le chien d'aveugle, voilà, moi, c'est
il est
vrai
chez
que
lui
je
avec
peux
la,
pas
avec
trop
la
vous
personne.
En dire.
Ouais. Mais
ouais,
je sais pas, ça me paraît étouffant.
Je le connais pas suffisamment.
J'ai l'impression qu'ils ont une vie complètement...
Je sais pas, parce qu'une fois à la maison... Je suppose qu'ils ont une vie plutôt normale, un peu comme tous les chiens. C'est surtout en extérieur où là, on leur demande quand même un travail. Ils ont été conditionnés pour un travail. Il faut ensuite que les besoins du chien soient respectés, c'est-à-dire qu'il puisse avoir un temps de défoulement.
Voilà, c'est ça, ouais, des choses toutes simples.
Relation avec des congénères. Ouais. Donc là, je ne sais pas autant... Ça peut, et avec certaines personnes, je suppose, quoi, comme des personnes non aveugles d'ailleurs, avec simplement un chien de compagnie. Il y en a qui vont le faire, il y en a d'autres qui ne vont pas le faire.
Oui.
Donc là, je pense que c'est vraiment une question de cadre aussi, de pouvoir bah, peut-être un jour mettre un cadre à ces activités-là aussi.
Oui, oui. Oui,
justement pour veiller au bien-être de l'animal et que qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui soit fait. Moi, ce qui m'inquiète peut-être plus, ça va être l'animal qu'on va prendre au sein d'une structure, quoi, les structures qui vont qui vont acheter ou adopter un chien. Là, c'est vrai que il y a beaucoup de risques, bah, déjà d'obésité, enfin, j'en ai vu, où l'animal est nourri constamment. Où il est constamment sollicité aussi, et bon, tout dépend, voilà, comment on va gérer les interactions, comment ça va se passer dans cette structure-là, au quotidien, H24, quoi.
Ouais.
Voilà. Et ça, ça se fait de plus en plus, ouais. Mais bon, la médiation par l'animal, enfin, tout ça, ça n'est pas rien, quoi, c'est ça.
Ah non, puis après, ça peut être très positif, parce que ça veut dire que ça y est, on prend conscience que c'est un individu qui va pouvoir nous apporter... Donc, il y a aussi cet aspect qui est positif, hein, mais voilà, après, il ne faut pas qu'on tombe dans l'animal-outil.
Non, c'est ça.
Voilà.
Il faut toujours, pour ceux qui pratiquent ou ceux qui souhaitent pratiquer, en tout cas, toujours avoir cette lumière-là allumée et pour veiller sur les animaux, quoi, pour dire stop. Là, ça, on ne peut pas le faire. Quoi. Ça, on ne peut pas, parce que pour l'animal, ce n'est pas possible. Ou ça, on lui en demande trop, donc non, moi, je ne le ferai pas. Il faut arriver à mettre des barrières aussi pour pas être trop sollicité et pour pas trop en demander aux animaux ou des choses qui ne soient pas adaptées à eux, en tout cas.
Puis qu'il ait peut-être aussi cette envie aussi de. Enfin voilà, l'important c'est qu'il ait cette envie de participer si ça devient pour lui une corvée.
Oui. Je sais que mon chien il va en courant.
Voilà, c'est ce que vous me disiez. Voilà, donc il a vraiment une envie.
Il est content.
Ouais. Voilà.
C'est ça. Voilà, qui ait cette envie. Je sais que il y a des moments, je lui demande des efforts. Mais on a l'habitude de travailler ensemble.
Ouais.
On le connaît, il me connaît. Derrière, après, il est récompensé aussi pour ce qu'il fait, quoi.
Non, puis si le fait de le voir de le voir partir en courant, d'avoir envie de travoir en médiation, bon là c'est l'idéal. C'est vraiment le cas.
C'est
voilà. On va faire une pause musicale et on reprendra l'entretien juste après.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate comme nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, similaire et sol do fa. Cette petite cantate, fa sol do fa, n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, similaire et sol do fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà, et je reste malhabile, fa sol do fa. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon je joue, toi chante, chante, chante-la pour moi. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile, cette cantate sans toi. Une petite prière, da 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 da, avec mon cœur pour la faire, et mes dix doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Si mi la ré, si mi la ré, si
vous êtes toujours sur CFM dans l'émission Combien de temps encore avec Delphine de Saint-Nicolas et on va parler maintenant de son action, de son rôle au sein de l'association Ayuda, association d'aide aux galgos en détresse. Vous avez un travail aussi, je sais que Monica donc, m'a parlé de vous, puisque vous aidez à l'association Ayuda sur des cas de galgos difficiles, traumatisés.
Galgo,
voilà.
Kodenko, oui.
Donc, quel est votre rôle au sein de cette association? Voilà.
Alors moi, je leur apporte une aide comme je peux, déjà. C'est de par mes formations, en fait, de recherche de personnes égarées, que j'ai d'ailleurs commencé avec mon chien que j'ai récupéré en refuge et qui a commencé sa vie par de la maltraitance, qui était maltraité par son premier propriétaire. Et donc, avec beaucoup de crainte avec l'humain, donc c'est vrai que j'arrive à comprendre aussi ces chiens et par là où ils sont passés, et que j'ai une expérience là-dedans, et que c'est grâce aussi à ces formations de recherche de personnes égarées que mon chien a pu reprendre aussi confiance en lui, déjà, et en l'humain. Bon, avec il y a ses limites quand même, hein, mais voilà, où un travail a pu être mis en place, et j'ai souhaité mettre à leur disposition et à disposition des lévriers mes connaissances, voilà, en recherche de personnes et mes expériences du coup avec mon chien qui a aussi subi de la maltraitance. On travaille en fait sur l'envie et sur la résilience qu'ils ont, hein, quand même, donc, une grande capacité de résilience eux-mêmes, mais donc on va les encourager à prendre des initiatives et aller vers l'humain.
D'accord.
Par le biais d'ateliers travaillant l'olfactif et l'association de l'odeur humaine avec quelque chose d'agréable.
D'accord.
Voilà. Qu'ils arrivent à se dépasser, mais tout en douceur, voilà, petit à petit. Chacun aussi à sa vitesse. Pour certains lévriers, ça va être plus simple que pour d'autres. Et, il faut respecter le rythme. Donc voilà, le travail est aussi adapté à chaque chien.
D'accord. Écoutez, voilà. Je pense que... Alors, est-ce que vous avez des points que vous avez qu'on n'aurait pas évoqués et que vous avez envie de développer?
Oui, alors c'est vrai qu'on est passé rapidement sur... c'est dur de tout dire. Sur l'éducation positive, alors c'est vrai, positive, éducation bienveillante, éducation qui va dans le sens aussi du bien-être du chien et sans matériel coercitif. C'est aussi, il faut quand même noter qu'on travaille beaucoup sur le renforcement... des bons comportements, enfin des comportements souhaités, des comportements qui vont dans le bien-être aussi du chien, les comportements adaptés du coup pour tout le monde. Voilà, on va vraiment mettre l'accent là-dessus et pouvoir les renforcer à l'aide souvent de récompenses, hein, mais elles peuvent être aussi verbales et caresses. Autant que si jamais on doit sanctionner un chien, on va juste le sanctionner en enlevant finalement... cette récompense, voilà, ou en lui enlevant tout simplement ce qu'il convoite, voilà, rattacher son chien par exemple alors qu'il a envie d'aller courir avec les copains mais parce que il est trop agité, ou alors il y a un comportement qui là ne fonctionne pas à ce moment-là. Il y avait ça, on avait parlé aussi vite fait de dressage, alors c'est vrai que du coup je crois que
oui,
la différence
entre voilà, est-ce qu'il y a une différence
parce que c'est pas facile, hein. C'est vrai qu'on nous appelle souvent et on nous dit bonjour, je voudrais que vous dressiez mon chien, je voudrais faire dresser mon chien.
Ouais.
Donc c'est vrai que voilà, ça fait partie d'un vocabulaire qui était là beaucoup avant, qui est encore. Et tout dépend de ce qu'on va y mettre derrière, voilà. Comme ces questions de vocabulaire qui peuvent être ambiguës. Le dressage, alors bon, moi j'essaye de faire un peu la différence et encore plus pour expliquer aux gens, comme ça les choses sont claires. C'est que moi j'y vois plus du conditionnement, voilà, dans le but conditionnement du chien, hein, dans le but qu'il acquiert un comportement demandé par l'humain. Plutôt parler de dressage pour un chien de travail. Voilà, par exemple, on va conditionner le chien, on va lui apprendre certaines tâches par le but d'exercice et de pratique répétée pour atteindre un but, en fait, un comportement en vue d'un travail spécifique, quoi.
D'accord.
Voilà. Moi, je vais y mettre cette notion-là. Après, le mot dressage a quelque chose de dur, hein.
Oui.
Dans le vocabulaire. Mais je tiens vraiment à faire la différence aux personnes pour qu'ils enlèvent en fait ce mot dressage un peu de leur vocabulaire et qu'ils le replacent dans autre chose.
Oui, voilà. D'accord.
Et que du coup on parle d'éducation.
D'accord.
Voilà. Donc pour moi c'est important de leur en parler.
Ok.
Et ce qu'on pourrait vite fait aborder, si c'est possible.
Oui.
Tout le matériel coercitif qu'on peut trouver encore et alerter les gens
Oui, oui, oui. Au
par
contraire.
Rapport à tout ça, par rapport à ces utilisations.
Ah oui, oui.
Et,
parce que.
Où est-ce qu'ils peuvent les trouver, malheureusement, encore.
Donc, moi, ce que je. Voilà, ce que je. Enfin, je sais pas, je pense que vous êtes d'accord, c'est vraiment que. Avant d'aller dans. Si on passe pas par un éducateur ou une éducatrice en particulier, de. Avant d'aller. Si on prend la décision d'aller dans un centre d'éducation canin, d'y aller sans son chien. Et
oui,
voilà.
C'est ça.
Voilà. Et de voir qu'est-ce qui se passe. Parce que. Alors, pas tous, on est bien d'accord, mais. Un bon nombre de centres d'éducation canines sont basés sur des méthodes violentes, voire maltraitantes. Et
non.
Voilà, donc faut surtout y aller sans le chien pour pouvoir dire bon ben voilà, non, je reviendrai. Voilà, bon, j'ai vu. Point, je m'en vais. Voilà. Donc je crois que c'est voilà.
Oui, oui, oui.
Très important de prévenir les gens, parce que ce que vous dites,
oui.
C'est une mode. Enfin, alors, tant mieux que les gens veuillent se mettre à éduquer leur chien mieux, prennent plus conscience qu'il a besoin d'une... Ça, c'est bien, mais qu'il n'aille pas n'importe où. Voilà.
C'est ça. Il faut vraiment faire attention, pas que les clubs, hein, un club ou centre d'éducation canine, mais aussi bon, certains pros. C'est vrai qu'après, on peut aller sur un club, aller voir, voilà, déjà avant, voir comment ça se passe. Comme vous dites, sans son chien, voir ce qu'on ressent, ce qu'on voit, quel matériel est utilisé, et se renseigner. Voilà, c'est quand même se renseigner sur les méthodes utilisées. Enfin, il faut pas hésiter. Moi, je vois encore trop de matériel tel que les colliers Torquatus, surtout. Voilà, colliers chaînettes aussi, donc étrangleurs, semi-étrangleurs. Utiliser quoi, et c'est catastrophique. C'est catastrophique. Après, en entretien comportementaux aussi, j'ai souvent des chiens qui sont passés par le collier électrique.
Alors ça, c'est quelque chose que j'accepte pas. Voilà, ouais.
Bah tout ce matériel-là n'est pas tolérable. Ouais. Manque de peau, c'est un matériel qui est vendu librement.
Ouais.
N'importe qui peut aller à Decathlon acheter un collier électrique. Mmh. N'importe qui peut rentrer dans n'importe quelle animalerie, grainetterie et acheter un Torquatus. Conseillé ou pas par des pros ou bénévoles de centres d'éducation canine. Voilà, c'est du grand, grand n'importe quoi. Et je comprends pas comment ce matériel est en vente libre.
Et complètement. Et puis voilà, c'est un matériel qui est complètement accepté, banalisé, préconisé. Si un chien aboie, eh ben, on va vous dire, mais attendez, vous avez le collier électrique. Donc si vous faites pas tout ce qu'il faut pour, on vous prend le chien. Ah non, c'est pas mon choix. Le collier électrique, c'est pas mon choix. J'ai pas envie de maltraiter mon chien. Donc c'est pernicieux, c'est vicieux comme système. Parce que tant que ça sera légal.
Souvent, ensuite, les gens, ils sont quand même face à des professionnels qui leur conseillent ou face à un moniteur de club et ils osent pas dire non, ils connaissent pas. Et voilà, votre chien tire en laisse, vous lui mettez un Torquatus.
Ouais, ouais.
Alors, collier de chaînette et on met un coup de sonnette, comme on dit.
Ouais. Ah oui.
Voilà. En fait, voilà, ce sont des méthodes d'éducation par la douleur.
Voilà.
Et on casse complètement le lien qu'on peut mettre en place avec l'animal. Quoi. Et après, ben voilà, s'il y a des troubles de comportement qui s'installent, le chien, il en peut plus, il envoie plein de signaux, et on peut courir à la catastrophe.
Ouais. Et la confiance du chien, de toute façon, elle est complètement cassée. Voilà.
C'est récupérable. Ouais, bon, beaucoup de travail.
Oui,
quoi.
Mais avec beaucoup de travail derrière. Quoi. Donc,
C'est ça. Et oui, et ça, c'est vraiment, moi, ça me met en colère de voir encore toutes ces animaleries, tout ça, qui vend encore tout ce matériel, quoi. Ça me met beaucoup en colère.
Et je sais que...
Encore il n'y a pas longtemps, j'ai vu un chien arriver en chenil, hein, pour être abandonné, quoi, un argentin. Le monsieur, il est arrivé, je sais même plus à quelle laisse il avait, quoi, comment j'ai pu voir. Je pense qu'il avait dû mettre un collier chaînette. Un grand chien, moi j'ai vu de loin et il était plein de pics au niveau du cou.
Ouais,
il avait un collier Torquatus, bien sûr sans les embouts en plastique, qui lui était rentré dans le cou. Quoi. Donc voilà.
Ouais, donc voilà c'est...
Et il était abandonné pour agressivité. Voilà. Logique.
Ouais, Mais je suis contente qu'on parle de ça. Voilà. Qu'on aborde
c'est un point
ce thème.
Très, très important. Ouais. Tous ces outils sont à bannir complètement. Quoi. Vraiment. Ça, il faut rayer ça, il faut les mettre à la poubelle. Il faut fuir les gens qui les conseillent.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Non, c'est pour ça, voilà, aller voir d'abord sans le chien, parce que quand on est chien, on est pris dans une espèce de cercle vicieux. Ben, on fait ce que l'éducateur
sûr,
dit, parce que
oui,
bah,
oui,
il... Donc, il faut y aller sans le chien la première fois, voir. Et quand on voit tout cette espèce de matériel qui se déploie, stop, quoi. C'est même pas la peine. Voilà.
Oui, donc, et puis la manière de fonctionner avec les chiens, c'est certains endroits, enfin, l'émotionnel du chien et ce qu'est le chien et ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, ce qu'il peut ou pas faire, quoi, n'est absolument pas pris en compte, quoi. Ce que veut l'humain là, dans ce moment-là, c'est que le chien obtempère, peu importe, et ne pas perdre la face, du coup, devant les autres. Donc on rentre dans quelque chose de très vicieux, quoi.
Oui.
Et malheureusement, la victime est le chien et pas que.
Oui.
Le maître, le propriétaire du chien est aussi victime parce qu'en fait, il se voit faire des choses qu'il ne ferait pas s'il n'était pas là, quoi.
Et là, il y a eu des rapports là de One Voice en caméra cachée dans des centres d'éducation canine où les maîtres finissent en pleurs parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont fait des choses mais absolument monstrueuses par rapport à leurs compagnons.
Il y a l'effet d'être sous quelqu'un qui sait, quoi, sous les ordres de quelqu'un qui doit savoir, quoi, et qui vous guide dans tous ces comportements maltraitants. Mais moi, j'ai vu les gens tellement, des fois, énervés, frappés sur leur chien. Bon, voilà.
Oui, non,
heureusement, ça a tendance à s'estomper, mais voilà, il va falloir que certaines générations de clubs se régénèrent.
Oui, et puis que les personnes, les particuliers qui y vont, soient très vigilants. Voilà, vraiment très vigilants.
Ça, le changement viendra d'eux.
Voilà, exactement.
Dans le fait d'accepter ou
exactement,
pas.
Exactement. Donc vraiment, aller sans son compagnon canin, on tout voit ce qui se passe. Et voilà, si on est sur des méthodes violentes et maltraitantes, on n'y retourne pas.
C'est ça. Et on se renseigne, tel matériel est utilisé, allons demander, allons voir un peu qu'est-ce que ce matériel, qu'est-ce que ça fait, quelle méthode.
Oui.
Faut pas hésiter à se renseigner, aller voir son le chien d'abord.
Mais je crois que c'est un point important à soulever parce que c'est c'est vraiment
tout à fait en attendant l'interdiction.
Oui. on va donc conclure faire dire aux personnes de faire attention, que ça soit une belle éducation pour leur chien et que ça leur apporte aussi un enrichissement, cette éducation, parce que ça va être basé sur l'échange. Donc que ça doit être ça, l'éducation, et de leurs compagnons et que remettre en place ce lien,
créer du lien, créer une belle relation et faire équipe avec son animal, quoi.
On va rester sur ces paroles d'espoir et puis on se rencontrera peut-être sur une autre émission.
Avec grand plaisir.
Voilà, bonne journée et en tout cas merci beaucoup de votre participation. Au revoir.
Merci à vous, à bientôt.
Donc vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur cfmradio.fr à la rubrique « Combien de temps encore ?». Je vous mettrai sur le petit texte podcast les principales associations One Voice, PETA France, 30 millions d'amis, L214, avec de nombreuses pétitions à signer. Donc c'est important de les signer. Ceux qui se battent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne font rien sont sûrs de perdre. Alors battons-nous. Combien de temps encore, c'est tous les mois. Donc je vous dis au mois prochain. Bonne journée, bonne soirée et bon mois.